Bien, alors que je me verse un peu d'eau, je vous invite à trouver l'épître aux Éphésiens. Nous poursuivons notre étude dans cette belle lettre, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux 10 premiers versets pour voir pourquoi Dieu nous a sauvés. C'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, c'est pas parce que on est bien en nous-mêmes, non. Il nous a sauvés pour lui, en fait. Et il nous a sauvés afin que nous pratiquions ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Et au verset 11 de notre texte, une fois que Paul a expliqué le salut et les raisons pour cela, il va dire « c'est pourquoi ». Maintenant qu'on a cette connaissance des 10 premiers versets, ça doit apporter des changements dans notre vie aujourd'hui. C'est pourquoi, voici la raison. Alors, ce n'est pas le hina qui est vraiment très fort, qui montre ce but, mais c'est un mot similaire en grec qui montre que Paul va vers un objectif. Et il dit, c'est pourquoi. Voici la raison. Oui, le salut est important. Avant la conversion, c'est la plus importante des choses. Mais le salut n'étant pas un but en lui-même, Paul dit par la suite, il y a des choses que nous devons faire. Et Dieu, en nous sauvant, il a un objectif. Et c'est ce que Paul va expliquer dans ses versets. Et en fait, à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 22, il y a seulement un commandement, un impératif. Et il se trouve au verset 12. Parfois, on le met dans le verset 11, mais ici, dans notre texte, il est au verset 12. Souvenez-vous. Ou nous pourrions dire, n'oubliez pas. Mais si on veut être positif, souvenez-vous. C'est le seul commandement dans tout ce passage. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est important de ne pas oublier? Est-ce que ce que Paul a à dire ici est important? Et est-ce que peut-être il y a le risque que nous oublions? Je crois que oui. Paul dit, souvenez-vous. Et on va voir ce que Paul veut commander, ordonner aux chrétiens de ne pas oublier. Alors, permettez-moi de lire à partir de verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Suivez avec moi. À partir de verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, donc les non-juifs, étaient appelés comme cela par les juifs, les incirconcis, les non-juifs, les circoncis, les juifs. Bon, voilà. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme, donc les juifs, c'est simplement dans la chair qu'ils avaient cela, et c'était quelque chose que les hommes avaient fait, bien que ordonné par Dieu. Verset 12, souvenez-vous, donc vous autrefois païens, souvenez-vous, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est grave, quand même. C'est terrible, la condition ici. Et verset 13, mais maintenant, avant vous étiez, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il, c'est-à-dire Jésus-Christ, est notre paix. Lui qui, des deux, donc des non-juifs, des juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire des juifs et des non-juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs. Car par lui, les uns, les non-juifs, et les autres, les juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, donc en Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains, que tu diriges notre réflexion, que tu agisses dans notre cœur, que tu enlèves tout obstacle au changement que tu veux apporter dans la vie de chacun d'entre nous. Éclaire-nous, transforme-nous par ta parole puissante, par ton esprit, et que ce soit pour ta gloire seule. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, ce passage, tout comme toute cette lettre, est tellement formidable. On sent Paul qui est tellement pris avec l'enseignement qu'il veut transmettre aux Éphésiens. Et il a peur que les Éphésiens oublient. Comme j'ai dit, ce verset 12, ou parfois on le met au verset 11, Paul, son but, c'est d'aider les Éphésiens à ne pas oublier. Il y a quelque chose que les Éphésiens pourraient oublier, et si les Éphésiens l'oubliaient, ce serait source de conflit. Et justement, c'est en oubliant les vérités de ce passage que la plupart, pour ne pas dire tous les conflits, viennent. Les conflits existent, les tensions, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la famille, que ce soit même dans l'Église. Des tensions, des conflits autres existent. Et Paul dit dans ce verset, en Christ, nous sommes un. En Christ, il y a une unité qui est présente, que le monde ne peut pas comprendre, que le monde ne peut pas avoir, et qui est seulement accessible à travers Jésus-Christ. Et Paul dit, lorsque on oublie cela, voilà les tensions, des conflits, des frictions, des frustrations. Et du coup, Paul veut rappeler, il veut insister sur les vérités de ce passage, puisqu'elles sont si fondamentales, si importantes pour les Éphésiens, il y a 2000 ans, mais aussi pour nous, ici à Vernon, 21e siècle. Alors, on revient au verset 11. Et comme j'ai dit, ce verset 11 parle des incirconcis, donc les non-juifs, et les circoncis, les juifs. Et nous savons que les juifs se faisaient une grande gloire, un point de fierté, de dire « Nous sommes le peuple de Dieu élu ». Nous avons les preuves, nous avons les promesses de la part d'Abraham, Isaac, Jacob. Nous sommes ce peuple choisi de Dieu. Et il y a nous, il y a les autres. Et malheureusement, dans le christianisme actuel, si on ne fait pas attention, on peut tomber un peu dans ce travers de croire qu'il y a nous et les autres. Et oui, nous sommes à part. Pierre, lui, il va l'expliquer dans sa première épître. Nous sommes un peuple acquis, une race royale. Nous sommes à part, Mais ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. C'est parce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais de ce que Dieu a fait pour nous. Et si nous ne faisons pas attention, nous pourrions tomber dans cet esprit un peu de supériorité par rapport aux autres qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et Paul dit, non. Chez le chrétien, chez l'enfant de Dieu, il n'y a aucune place pour cet esprit de supériorité. Déjà, les 10 premiers versets montrent que le salut que nous avons obtenu, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, ne vient pas de nous. C'est Dieu qui fait tout. Et Paul dit ici, avant, il y avait tension, il y avait friction. Il y avait nous et les autres. Les Juifs disaient, nous sommes spéciaux. Ensuite, il y a les autres. Les païens, les gentils parfois, comme on les appelle, les nations. Et du coup, Paul dit, cet esprit-là doit être mis de côté. Parce que souvenons-nous, dans l'église d'Éphèse, il y avait des Juifs, il y avait des non-Juifs, qui s'étaient convertis et qui devaient vivre ensemble dans l'église. Et ces Juifs, venant dans l'église, auraient pu avoir un esprit de supériorité en disant, oui, nous sommes sauvés, mais parce que nous sommes Juifs, nous sommes supérieurs. Et Paul dit, non. Aucune supériorité. Et au verset 12, il dit, souvenez-vous, n'oubliez pas. Et ici, il s'adresse aux non-juifs. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, avant leur conversion. Dans ce passage, on va voir que c'est Jésus-Christ qui fait toute la différence. Vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Vous étiez privés du droit de cité en Israël. Alors, lorsque le peuple d'Israël a quitté Égypte, est venu s'installer en terre promise, on a divisé la terre promise dans des territoires différents et chaque tribu avait sa place. Et puis les étrangers qui venaient s'installaient dans ces tribus mais n'avaient pas quelque part leur place. Ils n'avaient pas d'héritage. L'héritage était réservé au peuple juif. Et c'est l'idée ici, privés du droit de cité. Ils étaient là de passage, c'était les Juifs qui s'étaient installés, la terre leur appartenait, mais les étrangers, les non-Juifs, pouvaient s'installer, mais ils étaient des étrangers, un peu des gens de dehors. Et Paul dit, c'est comme ça que vous étiez, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. À qui est-ce que Dieu a fait des promesses? À un peuple spécifique, une nation spécifique, à Abraham. Et Paul dit, oui, d'autres pouvaient entrer dans cela, mais Dieu a fait ses promesses à un peuple spécialement. Et puis, sans espérance. Et quand on dit cela, c'est terrible. Parce que les nations avaient leur faux dieu. Ils s'appuyaient sur des dieux étrangers. Et sans espérance parce qu'ils étaient loin de Dieu. Situation terrible. Et là, sans Dieu dans le monde. Quel tableau noir, Paul, il dépeint ici. Et il dit, vous étiez comme ça. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas simplement que, c'est comme ça que cela aurait pu être, ou possible. Non, c'est comme ça qu'ils étaient. Tout comme au verset 1, vous étiez morts. Paul dit maintenant à ces non-juifs sauvés, vous étiez comme ceci. Et si eux et aussi les juifs convertis oubliaient les vérités que Paul va expliquer dans ces versets, ce serait source de conflit. Pas simplement avec les inconvertis, oui, avec des inconvertis, mais même au sein de l'Église à laquelle Paul est en train d'écrire. Et Paul dit, voici ce que vous étiez. Et je suis convaincu que nous souvenir d'où nous sommes venus, comment nous étions avant notre salut, nous souvenir de cela est une bonne chose. Non pas méditer là-dessus et laisser cela nous diriger, mais nous souvenir de comment nous étions avant notre salut. De dire oui, la réalité c'est que j'étais loin de Dieu. La réalité c'est que je n'avais aucune espérance. Je ne pouvais pas bénéficier des promesses de Dieu parce que je ne lui appartenais pas. Nous souvenir de cela, sur la base de ce verset, est biblique. Nous étions dans une situation extrêmement grave avant le salut. Et c'était le cas de chaque personne avant le salut, nous étions sans Dieu dans le monde. Aussi bien que soit notre vie, nous le savons, sans Dieu, elle ne vaut rien. Et nous souvenir de cela est important. Parce que sinon, on pourrait commencer à croire que nous sommes quelque chose, que nous n'étions pas si mauvais que ça. Et je me mets dans cette catégorie, étant né dans une famille chrétienne, ayant grandi dans une famille chrétienne, allant toujours à l'église, entendant l'enseignement de la parole depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui, ayant bénéficié de beaucoup, beaucoup de choses. Les gens peuvent dire, ben, Robert, tu n'étais pas aussi mauvais que un tel ou tel. Et peut-être aux yeux des hommes, oui, c'est vrai. Et pourtant, avant le salut, j'étais loin de Dieu. Et Paul dit ici, c'est le cas de chaque personne. Et maintenant, dans l'Église, parce que souvenons-nous, il écrit à des chrétiens, maintenant, dans l'Église, il y a des personnes d'arrière-plan très différents qui sont ensemble. Verset 13. Mais maintenant, après une réflexion sur le passé, ok, mais on ne reste pas dans le passé, mais il faut se souvenir, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et Paul, il est totalement pris de cet enseignement, de cette vérité si merveilleuse que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et lorsque nous croyons en lui, nous avons le salut. Paul, il est totalement bouleversé, totalement pris avec cette vérité. Et il dit, maintenant, nous avons été rapprochés. Et il ne faut jamais oublier cela. Et je loue le Seigneur que ici, souvent, on loue le Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Cela doit continuer. Et verset 14, Paul explique que Jésus-Christ, il est notre paix. Et j'aime bien comment Paul le formule. Ce n'est pas simplement qu'il apporte la paix. Non, mais il est parce qu'il habite en nous. Il est notre paix. Et puis, il a renversé le mur de séparation. Et c'est assez intéressant, Paul, dans un premier temps, ne parle pas du mur de séparation entre nous et Dieu. Si vous regardez les versets, il va en parler dans un instant. Mais, dans un premier temps, il parle de ce mur de séparation, l'inimitié qui existait entre des personnes. Il disait, les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre côté, il y avait comme un mur qui les séparait. Ils ne s'entendaient pas, parfois ils ne se parlaient pas. Et Paul dit, c'est comme ça qu'on était. On n'avait rien en commun. Mais maintenant, par Jésus-Christ, cela a été détruit. Verset 15, il a anéanti. Totalement enlevé, c'est l'idée. Il n'en reste plus rien si nous sommes sauvés. Et comme j'ai dit, ici, ce mur de séparation, Paul n'en parle pas dans les termes de ceux qui nous séparaient de Dieu, mais de ceux qui nous séparaient des uns des autres. Et bien que nous ne soyons pas juifs, non-juifs, avant le salut, il y avait des choses qui nous séparaient, soit des centres d'intérêt, des valeurs, des objectifs, des choses qui nous séparaient. Mais maintenant, nous sommes dans l'Église, ensemble. Et Dieu a enlevé complètement, sans laisser la moindre chose de séparation entre nous. Et Paul dit, oui, il y a ces arrière-plans différents, mais Dieu nous a mis ensemble. Et s'il y a quelque chose qui nous sépare, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a enlevé toute séparation entre nous. Et au verset 15, oui, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'était la loi de Moïse qui séparait les juifs des non-juifs. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Cette idée de paix va revenir plusieurs fois dans ce passage. C'est une caractéristique des chrétiens, des gens sauvés, des enfants de Dieu. La paix, bien sûr, en soi-même, la paix que Dieu donne, la paix avec Dieu, mais aussi la paix avec les autres. Et Paul dit, voici ce qui devrait caractériser chaque enfant de Dieu. Dieu a enlevé toute raison pour des tensions, pour une séparation, pour une friction dans l'Église. Ça ne vient pas de Dieu. Lui, il a établi la paix. Et verset 16, en plus de cela, il les a réconciliés avec Dieu. Donc pas simplement la paix entre nous, mais aussi la paix avec Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Paul va écrire aux Romains. Jésus-Christ les a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. Il n'y a pas l'Église française. Il n'y a pas l'Église américaine. Il n'y a pas l'Église juive. Il n'y a pas l'Église que sais-je encore. Et je suis convaincu que, aussi bien intentionnés qu'ils soient des personnes qui se rassemblent uniquement autour, soit d'une ethnie ou de quelque autre chose en dehors de la parole, sont dans l'erreur. Peuvent être bien intentionnés. Et peut-être, pour des raisons géographiques et autres, une église est composée uniquement de telle ou telle personne. Mais ici, Paul explique que des gens d'arrière-plan si différents que les juifs et les non-juifs, Dieu a voulu qu'ils soient ensemble. Et je loue le Seigneur ici que dans l'église, ici à Vernon, on a une grande variété de personnes d'arrière-plan très différents, qu'on n'est pas tous pareils. Ce serait tellement ennuyant, n'est-ce pas, si on était tous pareils. Imaginez-vous, vous étiez tous comme moi. Et n'ayez pas trop peur. Et si tout le monde était comme vous, où serait le monde? On serait mal, n'est-ce pas? Mais nous sommes différents. Et Dieu a voulu, non pas qu'on se rassemble, on se ressemble tous, il veut qu'on se rassemble avec une unité en lui. Donc chacun a ses particularités, mais il y a une unité en Jésus-Christ. Et cette unité n'a pu se faire que par la croix. Il a fallu que Jésus-Christ meure sur la croix pour détruire ce que Paul va appeler au verset 16 l'inimitié. Ceux qui nous séparaient de Dieu, mais ceux qui nous séparaient des uns des autres. Et Paul, en expliquant toutes ces vérités, montre encore une fois qu'il n'y a aucune place pour l'orgueil, l'arrogance, la supériorité. Tout ceci doit me pousser, doit nous pousser tous, à la fois à la reconnaissance envers Dieu, mais à l'humilité. Ce n'est pas étonnant que lorsque Paul va écrire aux Philippiens, il va dire que chacun préfère les autres avant soi. Lorsqu'on comprend que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, oui, nous pouvons mettre les autres devant nous-mêmes. Et si Dieu a pu rassembler des gens aussi différents que les juifs et les non-juifs, il peut rassembler aujourd'hui dans l'église de Vernon des gens d'arrière-plan aussi différents que nous avons ici. Parce qu'il est Dieu. Et au verset 18, regardez. C'est tellement formidable. Quel changement par rapport à comment ça se faisait avant. Car par lui, encore une fois, par Jésus-Christ, les uns et les autres, les juifs, tout comme les non-juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et étant si éloignés de l'enseignement juif, de l'arrière-plan juif, de cette culture, ceci ne nous semble pas si radical que ça. Et pourtant, essayons de nous mettre à la place des juifs du premier siècle qui, pendant littéralement des centaines et des centaines d'années, avaient enseigné, avaient entendu que pour accéder à Dieu, il fallait passer par le peuple juif. Pour accéder à Dieu, il fallait faire des sacrifices au tabernacle, au temple, et dans les règles strictes que nous voyons dans l'Ancien Testament. On ne pouvait pas venir à Dieu n'importe comment, n'importe où. Non, il fallait faire d'une certaine façon. Et c'était que des Lévites qui avaient le droit de faire des sacrifices. Enfin, il y avait tout un système que Dieu avait mis en place. Et maintenant, tout cela est bouleversé. C'est un changement radical pour ces personnes. Et ils se disent, mais maintenant, tout le monde peut s'approcher de Dieu. Oui. Maintenant, tout le monde accède au salut de la même façon que nous, peuple de Dieu, juif. Oui. Tout le monde peut prier Dieu comme nous le prions. Oui. Paul dit, on accède tous à Dieu de la même façon. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas en termes de juifs et non-juifs, mais on parlerait de quelqu'un qui est le pire à nos yeux, le pire pécheur, qui a fait le pire des choses, qui a tué, qui a volé, qui a fait, et là vous mettez ce que vous voulez. Et on se dit, mais cette personne se convertit? Non, c'est pas possible. Et pourtant, si. Et cette personne entre dans l'église. Quelle serait notre réaction? Ah ouais, peut-être il est sauvé, mais bon, c'est un chrétien un peu de deuxième rang. Il faut qu'il arrive quand même à notre niveau. Et on ne le dirait pas comme ça, je suis convaincu. Mais peut-être la pensée nous traverserait l'esprit. Et lorsque nous comprenons que nous accédons tous au salut exactement de la même façon, dans des circonstances différentes bien sûr, mais de la même façon par Jésus-Christ, Paul dit, aucune place pour la supériorité. Non. Dieu a voulu dans l'Église que tous soient ensemble dans une unité en Jésus-Christ. Et lorsqu'on réfléchit aujourd'hui, quelle serait notre réaction si quelqu'un venait dans l'Église, je prends un sujet qui est d'actualité, qui est homosexuel et qui se convertit? Quelle serait notre réaction? Est-ce qu'on l'accueillerait comme un frère, une sœur en Christ, avec bien sûr des progrès à faire, entendez-moi bien. Lorsqu'on se convertit, il y a des progrès à faire, des changements à faire. Mais est-ce qu'on l'accueillerait réellement comme un frère, comme une sœur en Christ? Ou est-ce qu'on aurait une réaction différente? Quelqu'un qui vient dans l'Église, qui est très riche. Je prie que ça se fasse, pour que l'œuvre de Dieu avance ici. Mais quelqu'un comme ça, qui arrive dans l'Église, comment est-ce qu'on réagirait par rapport à cette personne? Ah, parce que cette personne est riche, on va agir différemment. Si c'est un frère, si c'est une sœur en Christ, non, cette personne est sauvée exactement de la même façon que nous. Cette personne prie à Dieu exactement de la même façon que nous. N'a rien de supérieur à nous et nous n'avons rien de supérieur à cette personne. L'inverse, quelqu'un qui est très pauvre, SDF, quelqu'un qui n'a rien, comment est-ce qu'on va traiter cette personne? Si c'est un frère ou une sœur en Christ, est-ce que nous allons manifester le même amour, cette même unité envers ces personnes? Parce que au fond, ce sont des enfants de Dieu. Et souvenons-nous, c'est ça la condition, c'est être enfant de Dieu. Et au verset 19, Paul dit, « Ainsi donc, okay, maintenant, il ne faut pas oublier d'où nous sommes venus, d'où Dieu nous a sauvés. Il ne faut pas oublier ce que Dieu est en train de faire dans l'Église maintenant. Donc, à cause de cela, par Jésus-Christ, à cause du salut en Jésus-Christ, vous n'êtes plus des étrangers. Imaginez-vous le soulagement pour les non-juifs qui auraient pu se sentir un peu à l'écart, soit volontairement de la part des juifs, soit involontairement. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors. Ce n'est pas simplement les autres. Non, maintenant, dans l'Église, c'est nous. C'est nous ensemble. Il dit, vous êtes co-citoyens des saints. Ensemble. Nous sommes héritiers ensemble, gens de la maison de Dieu. Encore une fois, ceci est si radical parce que ceux qui étaient le peuple de Dieu, c'était des Juifs, descendants d'Abraham. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes descendants par Jésus-Christ d'Abraham. Et c'est quelque chose qui est formidable. Et c'est ça la réalité. C'est ce que Dieu veut lorsqu'il met en place l'Église. Il veut rassembler ses enfants ensemble pour avoir une unité, pour aller dans une même direction. Chacun avec ses particularités, avec ses dons, avec ses qualités que Dieu donne. Mais qu'il y ait cette unité ensemble. Et Paul dit, ça c'est la réalité. Et c'est possible. Tout peut être surmonté. Il n'y a aucun obstacle à cette unité qui ne peut pas être surmontée lorsqu'on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il est en train de faire dans l'Église. C'est seulement notre orgueil, notre péché qui empêche de surmonter n'importe quelle difficulté qui pourrait exister dans l'Église. Et au verset 20, Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit, vous avez reçu un enseignement. C'est comme s'il dit aux Éphésiens, vous n'êtes pas ignorants. Je suis convaincu, c'est le cas aujourd'hui ici. Nous ne sommes pas ignorants. Vous avez reçu un enseignement. Moi, j'ai reçu un enseignement. Gloire à Dieu. Amen. Ce fondement a été posé. Gloire à Dieu. Mais maintenant, qui dit édifice, qui dit bâtiment, veut dire bâtir, construire, ajout, continuation. Et bien sûr, le fondement, il y a l'enseignement des apôtres, des prophètes, mais il y a Jésus-Christ qui lui-même est la pierre angulaire. Bien sûr, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Et au verset 21, après avoir donné tout cet enseignement sur le salut, ici, dans ces deux derniers versets, Paul présente, on va dire, l'idéal pour l'Église. Et c'est l'idéal pour nous aujourd'hui. Voici vers ce vers quoi nous devons tendre. Voici ce vers quoi nous devons exercer tous nos efforts. En lui, donc souvenons-nous, en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas nous, n'est pas simplement le pasteur, ce n'est pas juste quelques-uns, mais non, c'est en Jésus-Christ, tout l'édifice. Ce n'est pas juste un seul, deux, trois, chaque enfant de Dieu. Il n'y a aucune exemption ici. Personne n'est exempt. En lui, tout l'édifice. Et cela implique chaque enfant de Dieu. Voilà pour, et entre parenthèses, voilà pourquoi il est si triste devant Dieu quand on n'est pas ensemble. Lorsqu'il y a des réunions de l'Église et qu'on n'est pas présent. Dieu veut l'implication de tous. Là où nous pouvons. Il ne s'agit pas pour tout le monde de tout faire, mais tous doivent être impliqués quelque part. Je ferme la parenthèse. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Bien sûr, chacun doit être impliqué, mais il ne s'agit pas de faire n'importe comment. Si l'un va à droite et l'autre va à gauche, on va être mal, n'est-ce pas? Si un va en avant et l'autre va en arrière, là, on a un problème. Non, tout l'édifice bien coordonné. Organisation, structure, pensée, sagesse. Et cela vient par Jésus-Christ. Lorsque nous demandons la sagesse de Dieu, il nous la donne. Jacques nous le promet. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et qui manque de sagesse, chaque main devrait se lever. Nous manquons tous de sagesse. Mais lorsque nous demandons la sagesse de Dieu, il nous la donne. Et lorsqu'il nous la donne, nous pouvons participer concrètement et sagement pour l'avancement de cet édifice que Dieu est en train de construire. Donc en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et ceci est extraordinaire parce que chaque enfant de Dieu individuellement est le temple du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, habite dans chaque enfant de Dieu, sans exception. Au moment de notre salut, le Saint-Esprit vient habiter en nous. En même temps, lorsque les chrétiens, les enfants de Dieu, se rassemblent, ce rassemblement est aussi le temple de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout cet édifice, c'est-à-dire toutes ces personnes sauvées par grâce, s'unissent et vont ensemble dans le même but pour être le temple saint de Dieu. Chacun individuellement, le temple du Saint-Esprit, Paul va en parler dans la première épître aux Corinthiens. Mais ici, c'est tous ensemble qui font cela. Et au verset 22, regardez. En lui, donc encore une fois, en Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés. Donc, ce n'est pas simplement les autres églises, ce n'est pas simplement l'église de Galatie, l'église de Philippe, l'église de Colosse, l'église de Laodicée, toutes ces églises auxquelles Paul a écrit. Non, mais vous êtes chrétiens d'Éphèse. Nous sommes chrétiens de Vernon, 21e siècle. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et lorsque nous nous rendons compte de cela, que nous venons ensemble, que ce soit le dimanche matin, le mardi soir, pour des différentes rencontres, soit de prières d'hommes, des réunions de dames, d'autres, nous venons ensemble pour continuer cette construction du temple de Dieu qu'est l'Église. Et nous avons le privilège de participer à cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de faire une œuvre surnaturelle ici. Et nous avons la possibilité de participer à cela. Et nous mettrions des obstacles à cela en tombant dans l'orgueil, en mettant l'accent sur nous-mêmes ou sur une personne en particulier. Ici, ce à quoi Paul, quelque part, s'oppose, c'est le manque d'unité. On peut dire le manque d'amour aussi. Dans l'église d'Éphèse, il dit « il n'y a pas de place pour cela ». Dieu est en train de faire quelque chose de si extraordinaire à Éphèse. Il est en train de faire quelque chose de si extraordinaire ici à Vernon, qui va tellement au-delà du simple individu que nous sommes. Oui, Dieu travaille individuellement dans le cœur de chacun d'entre nous, dans votre cœur, dans le mien. Et gloire à Dieu pour cela, et ça doit continuer. Mais ce travail individuel en chacun d'entre nous fait partie d'une œuvre plus grande, plus vaste, plus glorieuse que Dieu est en train de faire à travers nous dans notre ensemble. Et comment le pourrait-il s'il y a un manque d'unité ? Je vous soumets qu'à travers ce passage, nous voyons qu'il ne peut pas. Et je freine l'œuvre de Dieu si je ne suis pas en unité liée à mes frères et sœurs. Et je dois me remettre en question. Et je parle de moi personnellement, mais le pasteur. Moi, le premier, je suis ciblé par ce passage. Et quand on arrivera au chapitre 4, vous allez voir qu'on parle beaucoup des responsables. Mais ici, verset 22, tout l'édifice, ce n'est pas juste une pierre, un morceau-ci, un morceau-là. Non, c'est tout l'édifice. Et un bâtiment qui manquerait de briques ou qui manquerait de matériel va vite s'effondrer. Mais lorsque tous les morceaux sont présents, lorsque chaque brique, chaque aglo, si vous voulez, chaque morceau est à sa place, là, Dieu va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Et si nous nous rassemblons, ce n'est pas simplement pour avoir un club. Nous ne sommes pas un club, vous le savez bien, et pourtant, peut-être nous tombons un peu dans ce travers. Simplement nous réunir, repartir. Dieu est en train de faire quelque chose de si extraordinaire ici. Et quelle tristesse si nous ne nous impliquons pas là-dedans. Nous avons l'obligation de nous stimuler les uns les autres à être présents. À dire, est-ce que tu seras là à telle ou telle réunion ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider ? Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est principalement envers nos frères et sœurs en Christ. Le verset 10 termine avec ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces bonnes œuvres s'exercent dans l'Église, pas simplement envers des inconvertis. Et lorsque nous nous souvenons qu'il n'y a pas du tout de supériorité dans l'Église, que Dieu est en train de faire une œuvre surnaturelle, extraordinaire, ici spécifiquement à Vernon, comment ne puis-je pas être impliqué ? Comment ne puis-je pas louer Dieu et dire « Gloire à Dieu, merci Seigneur que tu me donnes la possibilité de m'impliquer ici ?» Lorsque je vois ces versets, oui, je me remets en question et je dis « Seigneur, pardonne-moi d'être à côté parfois de ce que tu veux. Mais Seigneur, je te loue tellement pour ce que tu es en train de faire ici. Et je veux participer à cela. Et je veux encourager un maximum à s'engager aussi. » Paul dit « Souvenez-vous, comment pourrions-nous oublier ? Et pourtant, lorsque nous voyons l'œuvre de Dieu, la seule réaction logique à cela, c'est « Oui, Seigneur, je m'implique. Je vais de l'avant. Seigneur, utilise-moi. » La prière de l'apôtre Paul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Oui, on le dit au salut, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et la réponse avant le salut, c'est « Convertis-toi. Accepte le salut. » Mais après le salut, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ben, serre-moi, là où je t'ai placé. Je t'ai mis dans l'Église. L'Église est si importante. Implique-toi. Dieu le dit à chacun d'entre nous si nous sommes ses enfants. Il nous appelle au salut d'abord, mais après le salut, il nous appelle au service. Que faisons-nous ? Avons-nous oublié peut-être ce que Dieu est en train de faire ? Rappelons-nous. Et puis, avec ce rappel, engageons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes cet édifice, nous sommes ce temple de Dieu. Vivons cette réalité dans l'unité que Dieu veut aujourd'hui. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois notre cœur. Tu vois nos manquements. Tu vois ce que tu veux faire en nous. Pardonne-nous pour notre péché. Relève-nous. Montre-nous ce que tu attends de nous. Seigneur, ouvre nos yeux, stimule notre cœur à t'aimer davantage, à nous impliquer. Rappelle-nous tout ce que tu as fait pour nous. Rappelle-nous tes enseignements, ce que tu attends. Et Seigneur, que tu aies toute l'attitude pour nous changer par ta grâce, par ton esprit puissant. Et que ce soit manifeste, évident pour tous ceux qui nous entourent. Et Seigneur, qu'à toi puisse revenir toute cette louange, toute cette gloire qui t'est due. Que ce soit indéniable que c'est toi qui le fais. En ton nom, nous prions. Amen.